Chers frères et sœurs, pour comprendre l'évangile que nous venons d'entendre, il faut faire un état des lieux. Ou plutôt, il faut revenir à la première lecture. Cette première lecture du livre de la Genèse, où nous voyons l'homme tomber. Je dis bien l'homme et la femme, pas que la femme. On est bien d'accord. Je vais passer les détails de la chute qu'on peut décortiquer, qu'on peut analyser. C'est très très intéressant parce qu'on voit un mécanisme extrêmement précis, le mécanisme du mal s'introduire dans l'homme. Pour aller à la fin, au moment où Dieu arrive, le Père arrive et pose cette question étonnante, « Où es-tu ?» C'est une question qu'il adresse à l'homme, « Où es-tu ?» Mais il le sait très bien, Dieu, quand il pose cette question à l'homme et à la femme, il sait très bien où ils sont, puisqu'il leur pose la question. Ça va, vous y êtes? Quand il dit « Où es-tu ?» Ce qu'il veut, c'est que l'homme comprenne qu'il est lié à Dieu. Et qu'en se déliant de Dieu, il se perd. D'où la question de Dieu. Où es-tu? Tu es parti. Tu m'as quitté. Tu as fait quelque chose qui m'a séparé de toi. Quelle est la réponse de l'homme? L'homme montre tout de suite qu'il a honte. Honte de Dieu. Qu'il a peur. Et puis il y a ce petit détail, ils étaient nus. Nus, la traduction exacte, c'est faible. C'est pas nu sans habit, c'est faible, c'est fragile. Nous étions fragiles, nous nous sommes cachés. Mais l'homme était nu déjà avant, quand il était avec Dieu. Il était fragile, il n'a pas changé de situation. C'est qu'en se séparant de Dieu, sa fragilité devient mortelle. Et là, on peut commencer à comprendre que sans Dieu, sans l'infini de l'amour, l'homme est dans une extrême fragilité et il a énormément de mal à assumer cette fragilité. Et à assumer la fragilité de l'autre, la fragilité d'Ève en l'occurrence. Il y a quatre niveaux, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous inquiétez pas, je ne vais pas développer ces points-là, juste que vous les ayez en mémoire. D'abord, l'homme s'est séparé de Dieu, ensuite, il y a eu une peur, il a peur de sa fragilité, il a honte. La dernière chose que fait l'homme, et qui nous fait tout le temps un petit peu rigoler quand même, faut l'avouer, il accuse sa femme. C'est pas moi, c'est elle. L'accusation est toujours un fruit du péché. Toujours. Quand on accuse, c'est que soi-même, on a quelque chose qui n'est pas juste en nous-mêmes. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas de l'équilibre humain quand on accuse. On peut avoir une bonne raison parce qu'on est lucide de mettre en valeur quelque chose qui ne va pas. Ça, c'est une chose. Mais quand on entre dans l'accusation, ça, c'est quelque chose de très grave, parce que l'accusation, elle tue. Quand dans un couple, je pense que ceux qui sont en couple connaissent cette petite expérience douloureuse, ça marche tout aussi bien en communauté, on s'adresse à son conjoint et on lui dit « tu ». Tu n'as pas fait ceci, tu es ceci, tu es cela. On tue l'autre. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à une accusation qui est vraie? Ce qui est faux, c'est l'accusation. Mais l'objet de l'accusation peut très bien être vrai. Tu m'as menti, tu es un menteur. Non, je ne suis pas que un menteur. Oui, j'ai menti, mais je ne suis pas que un menteur. voyez, l'accusation, elle est fausse. Quand Adam dit « c'est pas moi, c'est elle », bah oui, et Adam, qu'est-ce que je t'ai donné comme responsabilité, ta femme, t'étais où? T'étais au café, tu l'as pas protégée, tu l'as pas gardée du démon? T'étais où? La lâcheté de l'homme, elle est omniprésente dans cette histoire. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Tout pareil, elle accuse le serpent. Comment on va faire pour se sortir de là, vous voyez? C'est ça le problème de Dieu, c'est que l'homme se sorte de cette accusation. Pardon d'insister, mais cette accusation, elle est omniprésente pas seulement en nous, mais elle est omniprésente dans le monde. Ouvrez Internet et vous avez sur Internet partout la honte et l'accusation. Tous les journaux font leur argent sur l'accusation. Parce que quand on accuse quelqu'un, on ne se met pas dans l'objet de l'accusation. On se met quelque part au-dessus, vous voyez, dans une sorte de confort. Ainsi, quand on lit le journal, quand on voit les informations sur Internet, on voit, voilà, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Oui, c'est pas bien. Et on oublie de se regarder, et on ne se regarde pas. Et puis surtout, on oublie la complexité des choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un pêche, c'est toujours beaucoup plus complexe que ce que dit l'accusateur. Mais ça nous blesse terriblement. Alors Jésus veut nous sortir de là. Et c'est là qu'on arrive à l'évangile. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile juste avant que sa famille arrive, que les scribes et les pharisiens arrivent? Tout simplement, Jésus délivrait les gens de la présence du démon. Le démon ne cesse de nous mettre en fragilité. Ce qu'il a fait avec Adam et Ève, il le fait tout aussi bien avec chacun d'entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il nous possède, il ne peut pas nous posséder. Il ne peut pas nous posséder. Il ne peut pas entrer à l'intérieur de nous. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a la Trinité, sauf si on lui a ouvert la porte. Donc, on est bien protégé, en fait. D'ailleurs, Jésus le dit. S'il y a un homme fort, les biens intérieurs de la personne humaine ne peuvent pas être pillés. Ça, c'est sûr. Il n'empêche que Jésus chasse les démons parce que nous sommes sans cesse agressés et que du coup, ça nous empêche de voir le bien. Et Jésus veut que nous sortions de ce marasme accusatoire. Alors, on va commencer par accuser Jésus. C'est-à-dire, ce qui se passe avec les autres personnes va se passer pour lui. Comment est-ce qu'il fait pour renverser les choses? La première chose, c'est qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Et il dit aux gens, c'est pas moi qui suis divisé, c'est vous qui êtes divisé. Vous n'êtes pas dans l'unité. Depuis le péché, et il a raison, depuis le péché originel, nous ne sommes pas dans l'unité. C'est très difficile de faire l'unité. Nous ne sommes pas dans l'unité, c'est clair et net. Et nous sommes toujours dans une situation de fragilité. Et il n'y en a pas qui sont moins fragiles que d'autres. Ça, c'est pas vrai. Souvent, il y en a qui se plaignent en disant, en s'accusant d'ailleurs eux-mêmes, « Moi, je suis fragile. » Oui, mais toi, tu es aussi fragile qu'un autre. Tes fragilités sont juste différentes. Apprends à y résister. Apprends à le vivre. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Qu'est-ce que Jésus recommande de faire pour résister à ces fragilités, à cette fragilité accusatoire? Et vient l'histoire, vous savez, du Saint-Esprit. Enfin, vient l'histoire du pardon. Parce qu'en fait, la seule chose qui nous sorte de l'accusation, c'est le pardon. C'est de pardonner. Si je ne passe pas mon temps à pardonner, je rentre dans une situation d'accusation. En général, ça commence par l'accusation du supérieur, enfin de celui qui a une autorité, où on projette tous les rêves déçus sur l'autorité. Pauvre autorité, qu'est-ce qu'elle peut y faire ? Et je vise personne en disant ça. Quand Jésus dit, il y a un péché qui n'est pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a un péché qui n'est pas pardonnable, c'est de ne pas pardonner. Mais il faut bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Il n'est pas en train d'accuser et de mettre les humains qui n'ont pas pardonné dans un cul-de-sac. Il est simplement en train de dire que le Saint-Esprit, c'est la puissance de l'amour. C'est la puissance du pardon. Donc, si tu chasses le Saint-Esprit, ou si tu remplaces le Saint-Esprit par le démon, si tu dis que le Saint-Esprit est le démon, si tu dis que l'amour, c'est quelque chose de démoniaque, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Tu es fait pour aimer. Si tu refuses d'amour, si tu refuses de pardonner, si tu penses que c'est impardonnable, tu scies la branche sur laquelle tu es assis. Et le Seigneur dit clairement les choses, il dit, dans ces cas-là, tu tombes et je ne peux rien faire pour toi. Parce que mon seul moyen pour t'aider à sortir du péché, à sortir de l'accusation, c'est que tu pardonnes. Si vous voulez creuser ce sujet, qui est vraiment très très important, je vous invite à lire un livre de philosophie. Alors, montez pas sur vos grands chevaux, c'est plus facile qu'on l'imagine. C'est un livre qui a été écrit par Cynthia Fleury et qui s'appelle « Si j'y la mer », il y a un jeu de mots. Et d'un point de vue philosophique, elle dit exactement la même chose, mais juste d'un point de vue philosophique. Et elle va s'appuyer sur un autre grand philosophe qui s'appelle Yankelevitch et qui a travaillé la question du pardon et de la miséricorde en particulier. Et lui, il fait le lien entre celui qui pardonne et qui se sauve et qui reste dans l'arbre et qui sort de l'accusation et qui sort de l'amertume et celui qui ne pardonne pas, qui refuse de pardonner et qui entre de plus en plus dans l'amertume et dans le mouvement accusatoire et dans la division. À cause de ce que nous sommes, chers frères et sœurs, des fils d'Adam et d'Ève, nous sommes d'abord faits pour l'amour. On est d'abord faits pour l'amour. On est faits pour aimer. Et on est faits pour aimer à l'infini. On ne peut pas se sortir de cette vérité. Soit tu choisis la vie et l'amour, soit tu choisis la mort, le rien, le néant. Tu as le choix. Et celui qui accuse et qui reste dans l'accusation. L'important n'est pas d'accuser, mais enfin, ce qui est mortel, c'est pas. C'est vrai que l'accusation en elle-même est mortelle, mais ce qui est mortel, c'est de rester dans l'accusation, obnubilé sur l'accusation. Vous voyez, c'est toujours pareil. Ce qui nous fait du dommage, c'est l'obsession dans le mal. Alors à ce moment-là, nous nous divisons. La maison s'écroule. C'est valable dans toutes nos familles. Prenez le moment où il s'agit de parler d'héritage et toutes les belles familles commencent à se fissurer. Parce qu'on est tous des êtres humains, qu'on est tous archi-fragiles et qu'on a tous tendance à s'accuser les uns les autres. Alors, évidemment, le bon Dieu ne nous laisse pas là. Et il termine son évangile, Jésus termine l'évangile en pointant une chose qui vraiment, en plus du pardon, va nous sauver radicalement, parce que c'est vrai que parfois c'est difficile de pardonner, voire quasiment impossible à vue humaine. Jésus nous dit une chose, toute simple. Je suis en toi, je pardonne en toi, mais je t'en supplie. Fais la volonté de mon Père. Fais la volonté de mon Père. Et si mon Père te demande de pardonner, essaye de pardonner. Et si tu n'arrives pas à pardonner, demande la grâce du désir du pardon et elle te sera donnée. C'est Jésus qui pardonne en nous, mais nous sommes toujours libres. toujours libre. Toujours. Parfois même, on se met dans des situations où on pense qu'on est plus libre. En fait, on est toujours libre. Beaucoup plus libre que ce qu'on imagine. On est beaucoup plus fort que ce qu'on imagine. Fais la volonté de mon Père. Ça veut dire, va dans le mouvement que mon Père veut pour toi. Il t'aime, et si tu le fais, tu es sauvé. Et si tu désires le faire, tu es sauvé. Même si tu n'as pas commencé à le faire, le mouvement qui est en toi fait que tu vas être sauvé. Si vous le voulez bien, demandons à la Sainte Vierge de nous aider à rester bien unis les uns avec les autres, en pardonnant à temps et à contre-temps, sans cesse, que ça devienne une habitude extrêmement profonde de notre être, et en demandant à la Sainte Vierge aussi de nous aider à faire la volonté du bon Dieu d'une façon toute simple, concrète, pour que vraiment notre maison soit bien protégée et que nous n'ayons pas peur de nos fragilités, de nos nudités qui sont toujours là jusqu'à un quart d'heure après notre mort. Amen.